La contrainte principale pour déclencher cet investissement, ce n'est pas l'accès au crédit, dont on a vu qui est important. Les marchés aujourd'hui sont liquides, les entreprises peuvent avoir accès à de la ressource. Aujourd'hui, la contrainte principale, c'est accès à l'emploi, accès aux ressources humaines compétentes pour accompagner ou favoriser cette transformation.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trade Talk, le podcast pensé pour aider votre entreprise à se développer sereinement. Alors en phase de crise comme de reprise, s'il y a un enjeu majeur, c'est peut-être celui-ci, le financement. Comment trouver les fonds nécessaires pour atténuer les conséquences d'une activité qui ralentit, c'est un premier point bien sûr, mais comment ensuite trouver les sources de financement qui serviront à se relancer pleinement? Auprès de qui et sous quelle forme? Eh bien, c'est tout aussi important, évidemment. Alors, pour comprendre quels sont les enjeux de financement des entreprises actuellement, nous accueillons deux experts, Karine Pichon, directrice générale Europe de l'Ouest chez Coface, et Grégoire Chauvière-Le Drian, directeur du bureau de la Banque européenne d'investissement en France. Grégoire Chauvière-Le Drian, bonjour.
Bonjour Ingrid.
Alors, on a vu que les institutions ont eu, pendant cette crise liée au Covid-19, des réactions très différentes de celles qu'elles avaient pu avoir dans les crises passées. On pense évidemment, par exemple, à 2008, la grande crise financière, dans leur façon donc de soutenir les entreprises, de garantir leur financement. On a eu le sentiment, peut-être, d'avoir appris de nos erreurs. Est-ce qu'on pourrait dire ça?
Écoutez, la question est très intéressante parce que, effectivement, il y a eu, dans la réaction des institutions européennes, dans la réaction des gouvernements, une immense différence entre le traitement de la crise 2008-2010 et celle que l'on connaît aujourd'hui. Et cette différence, la première élément, je pense, important, c'est la capacité, la réactivité des différents acteurs. En 2008, en tout cas sur la partie européenne, en 2008, il faut attendre 2010, 2011, 2012 pour qu'on ait la mise en place d'un mécanisme européen de stabilité, le MES. Il faut attendre 2015 pour que vous ayez un plan de relance par l'investissement avec le plan Juncker et l'arrivée de la Commission européenne. Donc, on est sur une chronologie de réactivité européenne qui est de l'ordre de l'année, voire de plusieurs années. 2020, c'est totalement différent. Vous avez les débuts de la crise en février, mars 2020, et dès le mois de juin, et même dès le mois de mai, vous avez des premières réactions des institutions européennes, que ce soit la BCE, la Banque Centrale Européenne, la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, ou le MES, le Mécanisme Européen de Stabilité. Vous avez une réaction aux côtés des États membres de ces institutions européennes qui sont venues apporter des solutions. Et l'aboutissement de cette réaction, de cette capacité de réaction, c'est aussi cette décision très importante du 21 juillet 2020, de mutualisation de la dette et de grands plans d'investissement européens sur des montants qui n'ont jamais été atteints, des montants astronomiques de 750 milliards d'euros orientés vers le financement des économies européennes de manière à éviter la prolongation de ces crises et trouver des solutions par l'investissement à la crise.
Karine Pichon, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a vu face à cette crise du Covid assez inédite que les États et les banques centrales sont vraiment massivement intervenus. On a vu des injonctions de liquidité qui étaient destinées à soutenir l'économie. Est-ce que ça a fonctionné? Quels ont été les impacts sur les entreprises?
Les mesures ont été très efficaces. Elles ont permis de préserver le tissu économique. Elles ont même permis, quelque part, de réduire le nombre de faillites, puisqu'on se retrouve dans une situation, si on prend le cas de la France, où le nombre de faillites en 2021 ont représenté près de la moitié des faillites juste avant la crise du Covid. Donc, cet afflux de liquidités qui a été permis à la fois par les mesures des États et par le soutien des banques centrales en Europe, mais également dans les autres pays du monde, ont conduit à ce que des entreprises saines ou peu saines, finalement, ont eu accès à une liquidité. Ça montre quand même aussi que ces mesures très efficaces ont quelque part anesthésié l'économie et que certaines sociétés qui étaient déjà en difficulté avant la crise vont potentiellement se retrouver toujours en difficulté après la crise. Et donc, on peut anticiper une augmentation du nombre de faillites, ce qu'on a déjà constaté dans certains pays, comme en Angleterre. Et on voit une reprise, certes, venant d'un niveau très bas, mais graduel, du nombre de faillites en France.
Outre ce risque accru de faillite potentielle post-crise, est-ce que vous voyez d'autres points d'attention, des points de vigilance ou peut-être aussi des risques nouveaux en train d'émerger ?
Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des risques nouveaux. Nous avions toujours identifié déjà des risques autres hein, avant cette crise sanitaire et ceux-ci reviennent à l'ordre du jour. Vous avez des risques de disruption de chaînes d'approvisionnement, des risques d'inflation qui sont aggravés évidemment par la situation actuelle du conflit entre l'Ukraine et la Russie, hein, donc les risques géopolitiques, et puis également des risques technologiques, des risques digitaux. Nous le voyons notamment, hein, par exemple, dans le secteur de l'automobile. Donc tous ces risques-là qui existaient avant la crise, je ne dirais pas qu'ils sont nouveaux aujourd'hui. Je dirais juste que certains sont accentués par le contexte, notamment le contexte géopolitique, mais ils sont bien là.
Grégoire, aujourd'hui, comment est-ce que vous estimez les besoins en financement des entreprises ? Est-ce qu'il y a toujours besoin d'argent ? Et si oui, en fait, pourquoi faire ?
On a aujourd'hui un afflux très important d'investissements par de la ressource publique. Le plan européen de relance de 750 milliards est venu alimenter les plans nationaux. En France, vous avez le plan France Relance, doté de 100 milliards d'euros, financé à 40% par l'Union européenne. Donc, vous avez des ressources très importantes sur les marchés. Ces ressources visent deux éléments très, très, très utiles à la transformation de nos économies. C'est à la fois la transition énergétique. On est en plein cœur de cette phase de transition avec les éléments aléatoires qui sont en particulier une augmentation du prix de l'énergie actuellement. Et vous avez une transition digitale qui a été accélérée par la crise, les besoins ont été accélérés, accrus par la crise, le télétravail bien sûr, mais un besoin d'avoir une digitalisation de nos entreprises, de nos économies. Et ces investissements aujourd'hui accélèrent ou favorisent ces deux transformations.
Est-ce que vous avez à la BEI des remontées de terrain qui confirment cette volonté des entreprises d'investir dans la transformation ?
Vous savez, à la Banque Européenne d'Investissement, nous avons des études, un département économie qui publie chaque année une étude qui révèle les choix d'investissement ou les anticipations d'investissement des chefs d'entreprise. C'est un sondage qui est effectué auprès de 12 000 chefs d'entreprise et qui était intéressant à regarder dans la durée. Ça fait plusieurs années qu'on mène cette étude. Et cette année, des éléments assez frappants qui ressortent de cette étude, les chefs d'entreprise considèrent aujourd'hui que l'environnement dans lequel ils évoluent, le climat, a un impact sur leur chiffre d'affaires. Et ça, c'est une prise de conscience très importante qui n'existait pas il y a encore 3 ou 4 ans. Et prenant en compte cet élément-là, cet impact exogène sur l'activité, ces mêmes chefs d'entreprise déclarent, ou en tout cas anticipent, des investissements de leur part dans la transition énergétique. Et pour ce faire, aujourd'hui, la contrainte principale, c'est une contrainte en accès à l'emploi, accès aux ressources humaines compétentes pour accompagner ou favoriser cette transformation. C'est vrai de la transition énergétique, mais c'est vrai également de la transition digitale.
Karine, vous avez parlé des banques centrales notamment, mais les banques traditionnelles ont aussi joué un rôle majeur dans le financement contre cette crise. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans les modes de financement des entreprises ?
Nous n'en avons pas vu et je pense que cette crise a rappelé le rôle essentiel des banques dans le financement des entreprises. En France, les PGE ont été souscrites et distribuées par les banques classiques. On a des débats actuels hein, pour le retrait progressif de ce soutien des PGE et éventuellement pour certains secteurs d'activité qui ont été particulièrement touchés par la crise sanitaire, le transfert de ces PGE en prêts participatifs. Donc le peu d'évolution des moyens de financement. Il y en a un autre également que je dirais des prêts classiques qui est la facturage qui permet de financer les entreprises en rachetant leurs créances qui est une activité de financement qui est très développée en Europe. Et de manière plus marginale, nous avons toujours des modes de financement qui sont l'accès aux marchés financiers, mais ça touche beaucoup moins d'entreprises en nombre hein, qui vont se refinancer sur les marchés. Donc en conclusion, assez peu de changements, plus juste un rappel hein, du rôle essentiel des banques dans le financement des entreprises.
Alors ce système de financement, on a l'impression effectivement que ça fonctionne plutôt bien. Est-ce qu'une remontée des taux pourrait éventuellement gripper un peu cette machine, constituer un nouveau challenge, peut-être un nouveau problème même pour les entreprises ?
Alors, la remontée des taux, je rappelle qu'on part quand même d'un niveau qui est historiquement bas. Si elle se fait graduellement et que surtout elle s'accompagne d'une reprise économique, et c'est ce qu'on a pu constater jusqu'à aujourd'hui, hein, c'est une très forte reprise économique. Même certains secteurs d'activité se retrouvent à des niveaux d'activité supérieure pardon à celle de l'avant la crise sanitaire en 2019. Donc si ceci s'accompagne et est graduel de cette reprise, et je pense que c'est le souhait et les banques centrales, notamment la Banque centrale européenne, sera très attentive à ne pas gripper la reprise. Elle souhaite qu'il y ait une reprise. Donc si le surenchissement de la dette a lieu, hein, puisque c'est la conséquence de la hausse des taux d'intérêt pour les entreprises, avec une activité qui repart, l'impact, s'il est graduel et bien anticipé, devrait être limité.
Grégoire Chauvien-Hudrion, on comprend que la BEI a un rôle important à jouer au travers des financements, notamment pour aiguiller les investissements vers des projets d'avenir. Et ça, c'est d'autant plus important, évidemment, dans une phase de sortie de crise. Maintenant, comment est-ce que ça se traduit concrètement sur le terrain ?
La BEI, c'est la Banque de l'Union européenne qui a été créée en 1957 par le traité de Rome, et dont la mission principale est de remplir des politiques publiques européennes. Quatre objectifs principaux, les infrastructures. La BEI a financé à peu près quasiment toutes les infrastructures de réseau, transport, énergie, eau, électricité. Les PME, nous finançons via des intermédiaires financiers, les banques, les fonds d'investissement, les petites et les moyennes entreprises. L'innovation. Et ça, c'est un point important, puisque si l'on veut garantir la compétitivité des entreprises de demain, il faut aujourd'hui investir dans l'innovation, dans la recherche et le développement. Et la BEI, je le rappelle, si aujourd'hui nous sommes tous vaccinés, ou en tout cas majoritairement vaccinés, si beaucoup d'entre nous ont reçu un vaccin Pfizer, c'est que derrière, il y a une entreprise qui s'appelle BioNTech, une entreprise allemande, qui a été financée par la BEI. Et donc, nous avons accompagné cette entreprise dès 2019 sur sa recherche et son développement. Et enfin, le quatrième axe qui est appelé à devenir le plus important, c'est l'environnement. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes convaincus, et c'est l'engagement que nous avons pris auprès des États membres, qu'il faut investir massivement au niveau européen dans la transition énergétique.
Alors, on va se remettre du côté de ces entreprises, justement. Quels conseils vous auriez, quelles recommandations pour celles qui souhaiteraient investir et profiter du redémarrage économique ?
Ce qu'on observe, c'est un élément important, c'est que les entreprises qui s'étaient inscrites une démarche ESG depuis plusieurs années, elles sont pour la plupart plus résilientes face à la crise. Et c'est un élément qu'on observe également du côté des investisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette prise de conscience, c'est pas simplement pour verdir nos portefeuilles. Cette prise de conscience, c'est pour s'assurer, c'est pour confirmer que aujourd'hui, les entreprises qui s'inscrivent dans une démarche responsable, qui s'inscrivent dans une démarche de partage de la valeur, dans une démarche réellement d'impact, aujourd'hui, ce sont les entreprises qui seront pérennes, ou en tout cas qui ont plus de probabilités d'être pérennes et qui sont soutenables.
Karine, pour terminer, vous auriez des conseils, des recommandations pour les entreprises qui souhaiteraient maintenant se redéployer ?
Le conseil est toujours le même, les risques sont toujours là, ils existent. Au moment d'une forte reprise économique, ils n'ont pas disparu. Je parle d'actualité évidemment avec le risque géopolitique et je rappelle que la première source ou raison pour laquelle une entreprise fait faillite, c'est la faillite de son premier client. Et donc, avoir une information permanente sur la qualité de ses clients, sur leur capacité de payer et d'honorer les livraisons de biens ou de prestations qui ont été réalisées, c'est clé pour une entreprise. Et Coface, dans ce cadre-là, a plus de 700 personnes dans le monde entier qui réalisent chaque jour des analyses, entreprise par entreprise, secteur par secteur, pays par pays, pour aider et accompagner les entreprises dans leur développement.
Merci à tous les deux pour ces conseils ainsi que pour votre vision sur les opportunités actuelles de financement dont disposent les entreprises. C'était Ingrid Labuzan, journaliste pour Coface. Dans notre prochain podcast, nous continuerons évidemment d'explorer les risques et les opportunités qu'offre cette reprise économique. En attendant, retrouvez les analyses de risques pays et secteurs de Coface sur coface.com. À très bientôt.